Lucas Bellevaux, c'est un réalisateur français programmé sur cette édition de l'Arras Film Festival et il a fait une trilogie où l'objectif c'est d'entremêler les histoires entre elles et de les faire concorder avec les personnages tout en variant le ton de ses films. C'est-à-dire que ce n'est pas une trilogie classique avec une histoire qui continue avec un 1, 2 et 3, mais bien trois films indépendants les uns des autres avec une histoire différente par film mais qui se croisent. Et l'un des films de cette trilogie, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, Un couple épatant. C'est une comédie classique qui se rapproche un peu du vaudeville avec une histoire toute bête, un mari hypochondriaque du nom de Alain, qui a peur d'avoir une maladie grave et de mourir, mais ne le dit pas à sa femme Cécile pour ne pas l'inquiéter. Cécile qui, elle, voit qu'il lui cache quelque chose et pense donc à de la tromperie. Et évidemment, tout ce schmilblick apporte son lot de quiproquos. Et épatant, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis venu voir ce film sans vraiment trop d'attente, en me disant que j'allais juste passer un bon moment devant une comédie au scénario classique, certes, mais efficace, et j'étais vraiment à milieu d'imaginer, mais un tel divertissement. Je ne riais pas des blagues du film, mais parce que le film est une blague, à commencer par le scénario. Il part vraiment mais dans tous les sens. On commence par un quiproquo vraiment de base, où le mari ne veut rien dire à sa femme. Bon, et elle se fait des films. Puis on part dans des délires de dealers de drogue mélangés à un complot pour l'héritage d'Alain, et tout ça entouré d'un beau paquet rose d'amour et d'eau fraîche. Ce film, c'est vraiment un grand sac dans lequel on range plein de petites intrigues secondaires pendant tout le film pour finalement n'en résoudre aucune et à la fin dire « on s'en fout, on est tous copains, car il n'y a plus de quiproquo ». Et puis en plus de ce scénario, le montage, il est original. On passe des moments très longs où juste les personnages font des choses vraiment anodines ou incompréhensibles, comme ces longs moments où juste ils conduisent leur voiture. On pourrait simplement les voir monter dans la voiture, hop, ellipse, et faire du trajet. Mais non, 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 on va montrer tout le trajet. Et heureusement, ils n'ont pas fait Paris-Roubaix. Hein. Et puis parfois, on enchaîne les actions hyper rapidement. Le scénario passe d'un calme cornélien à d'un coup, on avance toutes les intrigues en même temps. Donc bim, on est à l'hôpital, on voit le mari qui devient fou. Puis bim, on est à l'école avec sa femme et sa pote Camé. Puis bim, on est dans un champ. Puis bim, on est au chalet. Et après, on revient sur du plat, sans prévenir. Et ça devient à partir d'un moment très drôle, car les actions s'enchaînent de manière lunaire. Et puis le jeu d'acteur dans tout ça, il n'arrange vraiment rien, car il en rajoute même une couche parce qu'il fait vraiment jeu d'acteur de téléfilm. Car quand un personnage passe d'un grand sourire joyeux à d'un coup pleurer à chaudes larmes, limite à se rincer le visage avec ses larmes, puis d'un coup en fait non, il pleure plus, il est énervé et ses larmes elles sont totalement sèches. Il y a de quoi douter de la véracité des émotions quand même. Hein. Et à cause de ce scénario, montage et de cet acting, on n'y croit pas et on comprend même pas ce qui se passe à l'écran. Mais bon, c'est une comédie, on est là pour rire après tout. Parlons des blagues. Mais en fait, au lieu de rire, des fois j'avais vraiment l'impression que le film, il essayait de mettre sa main dans mon cerveau et voulait en faire de la soupe intellectuelle. Par exemple, dans le film, Alain il s'enregistre sur un magnétophone pour modifier son héritage tout le long du film, ce qui rajoute une petite mécanique drôle. Et franchement, ça part d'une bonne idée, mais quand cette mécanique sert juste à expliquer des blagues que je viens de voir ou bien à me faire la morale, ça a tendance à être un petit peu gnangnan. Ces moments-là, ils commencent toujours par une explication de la blague, donc s'il glisse sur une peau de banane, il va s'enregistrer et dire « Oh là là, je viens de glisser sur une peau banane, et ça fait mal !» Puis ensuite, il regarde la caméra et il s'adresse directement à nous, spectateurs, et finit par une phrase solennelle. « C'est toujours dur de glisser dans la vie. » « Ok Jean-Claude Van Damme, c'est bien, hein, mais c'est pas ce que je voulais que tu fasses avec ce magnétophone. De base, moi je voulais rire, hein, pas une compile de tes meilleurs proverbes. » Et le pire, c'est que parfois c'est bien fait. Certaines blagues sont drôles et cette mécanique est parfois très bien utilisée. Mais pas souvent. Et on voit le potentiel des blagues et des différentes mécaniques qu'il y a, avec des bonnes utilisations drôles. Et ça nous frustre que ce soit si rare dans le film. Et en fait, avant de faire cette critique, je n'avais pas compris que le film faisait partie d'une trilogie. Et je pense que cette contrainte est la cause de toutes ces confusions et cette espèce de mauvais montage. C'est comme si on nous donnait une notice avec toutes les pages dans le mauvais ordre. Car les trois films ne se suivent pas de manière linéaire, ils s'entremêlent. Il faut que les trois ensemble soient compréhensibles et d'une certaine manière se suivent, tout en étant des histoires indépendantes les unes des autres. Et là où le concept est intéressant, malheureusement je trouve que pour celui-ci, un couple épatant, ça ne tient pas bien. Ou du moins, indépendamment des autres, ça ne marche pas. Mais cela devient presque une parodie de lui-même tant j'ai trouvé ce film lunaire, et j'ai donc quand même beaucoup rigolé malgré tout, et je vous invite, chers auditeurs, à aller le voir samedi au Megarama, au Arras Film Festival, pour vous faire votre propre idée.
Try number one.
Mon mari me cache quelque chose.
On avait dit 5 jours.
T'as pas encore compris que 5 jours pour moi c'est 10 ans. T'as pas encore compris ça ?
j'aurai une nouvelle bagnole. Dans 3 jours, je fais sauter l'hôtel de police. On n'a jamais été aussi fort, Jeanne.
Ce serait pas une histoire de cul, votre affaire, là?
Mais non, il n'y a pas de cul dans cette histoire.
Ça va pas, non?
Je vais devoir le filer, le surveiller, interroger des gens. Ça risque d'être sordide. Peut-être qu'un petit secret est préférable.
Au secours!
Elle est jeune, 20 ans, pas plus. Jolie, un peu dans votre genre.
C'est ma fille.
Excusez-moi.
Vous avez l'air déçu?
Non, j'ai plutôt l'air d'un con.
C'est ça ton problème. C'est que tu viens d'un monde où il y a que des individus, il y a que des maisons individuelles, des problèmes individuels. Va voir la mère de Jean-Jean, va voir où elle vit. Je te jure qu'elle a les mêmes problèmes qu'une masse de gens.
T'es tout seul, Bruno. Tu vas te faire tuer.
Je suis flic, on me paye pour ça. Je suis sûr que ça ne sert à rien. Et quand on arrête un dealer, le juge le relâche et on le retrouve le lendemain, au même endroit. Tout le monde sait ça.
C'est dur de voir souffrir quelqu'un qu'on aime. J'aurais quand même cru que vous tiendriez un peu plus longtemps.
On ne prête jamais assez d'attention aux gens qu'on croise.
Lucas Bellevaux, mon petit Lucas, comment on se retrouve, toi et moi ? J'étais déjà allé voir le premier volet, un couplet épatant de ta superbe trilogie, et j'avoue que j'avais été époustouflé, on va dire. Je vous renvoie vers ma première critique. Mais je n'ai pas lâché l'affaire, il fallait que je voie les autres. J'ai donc regardé le deuxième volet de cette trilogie, Caval. Et Caval, c'est simple, c'est un homme, Bruno, qui s'échappe de prison et qui est donc en Caval. Et si vous vous souvenez bien, les 3 films ont des histoires indépendantes, mais qui se croisent, donc toute cette histoire se passe en même temps que l'histoire du 1, et évidemment dans la même ville. En fait, on suit donc la cavale de Bruno. Et Bruno, s'il était en prison, c'était parce qu'il faisait partie d'un groupe révolutionnaire qui voulait renverser les patrons. Et vous l'avez peut-être compris avec mes critiques, mais moi ce que j'aime, c'est l'histoire et la cohérence des films avant tout. Mais là, franchement, c'était pas bien. Et je suis peut-être cru, mais j'ose le dire. Déjà, il est en cavale, mais attention, hein, en cavale de luxe. Il a une planque, qui est un vieux garage, et visiblement dedans, il y a tout. Plein d'argent, des faux passeports de tous les pays, et autant d'armes que la Suisse avec lui. Et le plus drôle, il a des déguisements de toutes sortes. Déguisements de facteurs? Mais bien sûr qu'il l'a. Déguisements de journalistes? Évidemment. À croire que cette cavale était prévue depuis sa naissance, et ce n'est pas tant ça le problème en soi. Le problème, c'est que ça se prend beaucoup trop au sérieux. Par exemple, à un moment, Bruno tue quelqu'un. Puis il vient sur la scène de crime où il y a des policiers et il est au premier rang. Donc tout le monde le voit. Hein. Mais c'était sans compter son meilleur déguisement. Des lunettes. Et grâce à ça, ce n'est mais plus du tout la même personne. Hein. Mais rien à voir. Puis juste le contexte fait faux. Il s'est échappé. Donc c'est littéralement le fugitif le plus recherché de France. Donc il y a des policiers partout, des barrages, partout, tout le monde le cherche, mais grâce à ses lunettes, personne n'y arrive. Et les policiers, ils ne sont bizarrement mais jamais là quand il faut, ils sont toujours en retard ou presque là pour l'aider. Et l'histoire, mais elle est pire. En gros, Bruno, il a 3 grands objectifs. Le premier, libérer ses anciens camarades. Ok, logique. Le deuxième, reprendre ses anciennes activités de révolutionnaire. D'accord, j'accepte. Et le troisième, tuer un baron de la drogue sans aucune explication de qui c'est et surtout pourquoi. Lequel de ces objectifs il va faire, me demandez-vous? Mais évidemment qu'il va faire le troisième et oublier les 2 premiers. Et donc dans tout le film, on suit Bruno qui essaye de rencontrer ce baron, on ne sait toujours pas pourquoi, mais n'y arrive jamais. Et c'est long, mais tellement long. Comme le premier film, on passe des moments super longs de dialogues qui sont censés être poignants mais sonnent tellement faux, à des moments de fusillade, où d'ailleurs les ennemis de Bruno ont eu les mêmes entraîneurs que les Stormtroopers de Star Wars, car même à 15 contre 1, il ne reçoit jamais aucune balle. Mais les gens autour de lui, si. Probablement une protection divine que j'appelle personnage principal. Et le pire du pire, c'est qu'on te fait poireauter 1h50 pour savoir s'il va réussir à tuer le baron, pour au final que celui-ci arrive à retrouver sa planque et lui envoie les gardes. Mais Bruno arrive à s'échapper des gardes et à trouver le baron et le tue directement sans aucune difficulté. Donc Bruno, si tu pouvais le faire si simplement, alors pourquoi ne pas l'avoir fait 1h50 plus tôt? Et là, le film, il n'est même pas fini. Après, il va faire une randonnée dans les montagnes et puis je vous passe les détails. Je n'ai même pas le temps d'expliquer tous les problèmes du film. Mais c'était vraiment pas ma tasse de thé. Hein. Donc peut-être que je suis juste pas fan de Lucas Bellevaux, ce qui est possible. Mais personnellement, je ne comprends pas ce qu'il fait. Et puis, Petit détail aussi, les histoires se passent en même temps. Donc il y a des fusillades, des policiers partout, etc. etc. qui dans le premier film, bah, ils sont jamais là. On ne voit que Bruno rapidement et c'est tout. Donc encore une fois, je pense qu'en voulant croiser les films, Belvaux s'est trop compliqué la tâche et n'a pas réussi à faire quelque chose de logique et cohérent à trop vouloir connecter les films entre eux. Mais je suis tout de même curieux d'avoir d'autres avis sur ces films, donc allez voir Caval et faites-vous votre propre avis.